Chère auditrice, cher auditeur de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Dialogue interculturel et citoyen. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Monsieur Yves Chevalier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Monsieur Chevalier est un sociologue français, professeur honoraire de l'Université François Rabelais de Tours, et notamment spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et des relations entre juifs et chrétiens. Peut-être qu'il complétera. Peut-être nous présenter rapidement votre parcours universitaire pour que nous venions sur la raison pour laquelle nous vous interviewons ce matin.
Alors, le parcours universitaire, j'ai envie de dire, j'ai fait un cursus tout à fait classique, mais enfin quand même avec une petite particularité, c'est qu'après mon baccalauréat, je suis parti enseigner dans une école des frères à Jaffa. En rentrant de ces 2 ans que j'ai passé là-bas, j'ai commencé des études de sociologie qui m'a conduit sur la thèse et puis l'activité d'enseignant pendant une quarantaine d'années. Et en même temps, quand j'ai commencé à faire les études de sociologie, je me suis, comme je rentrais d'Israël et que je... c'est une question qui m'intéressait, j'avais travaillé là-bas, avec plusieurs amis qui m'ont conseillé, je suis entré à l'Amitié judéo-chrétienne de France.
Alors, faut rappeler, pour revenir sur votre rapport avec ce temps passé en Israël et la suite, que vous avez fait une thèse autour de la question de la stratification sociale de la société israélienne.
J'ai fait 2 thèses, parce que dans le cursus professeur, à cette époque-là, on faisait 2 thèses. J'ai d'abord fait une thèse qu'on appelait de 3e cycle, et effectivement, j'ai étudié l'évolution de la structure sociale de la société israélienne entre le début de l'émigration, et donc comment est-ce que la société s'est constituée, et le terminus ad quem que j'ai utilisé, c'est une grande enquête, un recensement qui a été fait en 1961. Donc c'est, disons, de la constitution de la société israélienne de 1920 à 1960.
Très bien. Sujet qui reviennent par rapport évidemment à la complexité de l'actualité. Rappelez que c'était fait à l'Université René Descartes.
Alors, j'ai fait mes études à l'Université René Descartes, c'est-à-dire à Paris.
Mmh. Et que vos professeurs étaient M. Bourricot et Mme Ben Simon.
Alors, mon directeur de thèse a été M. Bourricot, le professeur Bourricot. Mais pour travailler avec une personne qui était compétente, parce que M. Bourricot n'avait strictement aucune connaissance particulière de la société israélienne, bien sûr, j'ai travaillé avec la professeure Doris Ben Simon, dont j'ai été d'ailleurs un assistant à un moment donné au CNRS. J'ai travaillé avec elle alors qu'elle était au CNRS.
Très bien. Rappelez d'ailleurs que votre thèse a été publiée aux éditions Hachette. Vous avez d'ailleurs écrit, et ça c'est très intéressant, un article sur votre compagnonnage, comment s'est construite cette relation de travail avec Mme Simon, qui a été publiée aux archives des sciences sociales des religions, donc une revue.
Au moment de son décès, ils ont fait un numéro d'hommage. Enfin, ils ont demandé à un certain nombre de sociologues qui l'avaient connu de porter leur témoignage. Et effectivement, j'ai écrit un petit article, il a 3 pages ou 4 pages, je sais plus. Mais pour effectivement raconter un petit peu comment je l'avais connue et ce que j'avais fait avec elle.
En tout cas, c'est cette première phase importante de votre histoire qui structure vos intérêts, vos ambitions, vont déboucher sur un 2e travail qui, lui, a plus de rapport avec notre rencontre ce matin, qui est un travail autour de l'antisémitisme.
Alors ça, c'est la thèse d'État, comme on l'appelle maintenant, c'est-à-dire un gros travail qui m'a pris une dizaine d'années sur l'antisémitisme. La thèse elle-même avait pour sous-titre « Contribution à la théorie de l'antisémitisme ». J'ai essayé de travailler le problème de la théorie du bouc émissaire appliquée à l'antisémitisme. Contrairement à un certain nombre de gens qui n'ont pas compris ce que j'avais fait, ça c'est normal, je n'ai pas la prétention d'avoir une explication complète de l'antisémitisme, mais j'ai simplement essayé de voir si le mécanisme du bouc émissaire, qui est un mécanisme psychosociologique, pouvait expliquer une partie de l'antisémitisme.
Peut-être vous pourriez éclairer un petit peu nos auditrices et nos auditeurs.
Ben, c'est l'idée que les collectivités ont tendance à rechercher des explications pour se dédouaner des responsabilités qu'elles peuvent avoir. Et quand une société va mal, une société économiquement mais politiquement va mal, elle a tendance à essayer d'expliquer la cause de des crises par l'action de quelqu'un extérieur. Et dans l'histoire, quand on regarde les différentes étapes, moi j'ai essayé de montrer que le mécanisme du bouc émissaire, c'est-à-dire rechercher un responsable extérieur à la communauté, a joué assez systématiquement. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Il y a des tas d'autres explications de l'antisémitisme, c'est pas la seule. Mmh. Et d'ailleurs, l'antisémitisme n'a pas une cause spécifique et unique, mais en fait, c'est un ensemble de mouvements et un ensemble de causes, dont celui-là.
Si on fait le lien avec aujourd'hui, sans plaquer les choses, bien entendu, l'antisémitisme est là, a toujours été là. Simplement, aujourd'hui, il s'exprime de manière assez forte, avec de nouveaux, en tout cas, de nouvelles modalités, de nouveaux espaces. Comment vous faites le lien entre votre approche pour vous? Oui. Quel sens vous pourriez lui donner dans l'actualité au sens fort du terme, hein, pas au sens des événements superficiels, mais au sens du fond, de quelque chose qui, au fond, remonte, mais est là, dans le substrat de notre société?
Moi, à mon sens, c'est les événements du Proche-Orient qui sont le point de départ d'une réflexion sur qui est responsable de ça. Et je ne sais pas comment dire, enfin, en mettant ensemble un certain nombre de choses, on accuse les Juifs en général, et pas simplement Israël ou telle personnalité politique israélienne, d'être le responsable de la crise qu'il y a, qu'on vit à l'heure actuelle.
Et est-ce que vous faites le lien aussi avec, vous avez parlé tout à l'heure de se dédouaner des responsabilités, est-ce que vous pensez que la responsabilité des Européens dans la Shoah, de ce cimetière juif qu'est l'Europe, est-ce que vous pensez qu'en creux, il y aura aussi cette question-là de se dédouaner de cet épisode très particulier de notre histoire européenne?
C'est difficile à dire parce que j'ai pas fait d'analyse spécifique sur cette question-là, mais je pense qu'il y a le fait que la création d'Israël s'est faite après la Shoah a fait que un certain nombre de gens essayent de se dédouaner des responsabilités, ont essayé de se dédouaner de la responsabilité de la Shoah en permettant ou en acceptant la création de l'État d'Israël. Et c'est un retour qui fait qu'à l'heure actuelle, ce mouvement se tourne contre la communauté juive française. Et dans d'autres pays aussi. Mais est-ce que c'est lié? Oui, probablement, mais enfin, je n'ai pas d'éléments spécifiques et vérifiés pour l'affirmer.
On reviendra sur cette question de l'antisémitisme à travers la question du dialogue juif et chrétien dans quelques minutes. Donc ce travail donc, a été publié, hein, d'ailleurs c'est important de dire, en 1988 aux éditions du Cerf, et il portait le titre de l'antisémitisme, le juif comme bouc émissaire. C'est un peu un raccourci plus direct du titre de la
thèse. Et en fait, le premier volume de la thèse, c'était une analyse de toutes les théories qui ont été présentées sur les causes et le mécanisme de l'antisémitisme. Et la deuxième partie de la thèse, c'est l'application et la deuxième partie du bouquin, c'est l'application de la démonstration du mécanisme du bouc émissaire.
Nous mettrons sur le site internet d'ailleurs l'ensemble des références que nous venons d'évoquer.
Je vous remercie.
Et donc tout ça nous amène à revenir sur ce que vous avez dit au début de l'entretien, c'est-à-dire à votre rôle, votre intérêt, votre rôle dans la création le portage de l'amitié judéo-chrétienne de France. Peut-être nous expliquer un petit peu le contexte et l'importance des gens qui ont fondé cette dynamique.
Le fondateur, c'est d'abord Jules Isaac. Mmh. Et l'ouvrage qui a fait son... Pas le seul, parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages, mais il y en a un en particulier, c'est Jésus et Israël, qui est l'analyse de l'antisémitisme chrétien. Comment est-ce que l'Église, le christianisme, a finalement construit une théologie de l'antisémitisme. C'est le fondateur de l'association.
Très bien.
Donc, quand je suis rentré d'Israël en 1963, on m'a orienté vers lui. Je ne l'ai jamais connu, parce qu'il est mort en septembre 1963. Et moi, j'ai commencé, en fait, à contacter l'association en début 64. Donc, je n'ai jamais connu le fondateur. Mais disons que c'est un peu dans cette perspective-là que l'association a été fondée. Comment, donc c'était l'idée de Jules Isaac, c'est comment faire pour que les chrétiens abandonnent cette théorie théologique qui nourrit l'antisémitisme.
Peut-être rappeler quelques éléments clés de cette théorie, de la substitution notamment.
Alors oui, c'est le remplacement, la substitution, la théorie de la substitution, c'est que assez rapidement, l'Église s'est présentée comme étant un organisme qui remplaçait le judaïsme et la tradition juive. Et donc, ils ont construit une théologie qui a commencé par nier l'origine juive du christianisme. Et en particulier, avec des accusations du genre de celle de le déicide, c'est-à-dire qu'un élément principal de cette
rejet,
c'est l'accusation qui était faite que les juifs sont les responsables de la mort du Christ. Mmh. Ce qui est historiquement faux, et Jules Isaac le montre d'une manière qui n'est pas discutable, mais qui a quand même nourri cette exclusion donc, du judaïsme dans la théologie chrétienne. Et cela pendant des siècles. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une présentation passagère qui serait... qui circulerait, mais qui est la base même de la construction que l'Église s'est faite de ses rapports avec le juif. Mmh. On sait très bien qu'il a fallu attendre le deuxième concile de Vatican II pour que cette théologie soit, non pas discutée parce qu'elle était déjà discutée avant, mais qui soit officiellement rejetée par l'Église catholique.
Oui, c'est parce que c'est le monde chrétien, je crois, est complexe et varié en la matière, si j'ai bien compris. Donc l'amitié judéo-chrétienne, en fait, débute avant le Concile Vatican II.
47, 48.
Donc il y a une préoccupation forte déjà d'un certain nombre de chercheurs, de penseurs.
Alors il y avait quand même déjà un certain nombre de gens qui, même avant la Shoah, avaient déjà développé l'idée que la théologie qu'on enseignait était fausse, enfin, devait être corrigée. Mais c'est vrai qu'officiellement, ça a été très très long à aboutir. Donc dans l'association, on a effectivement probablement attiré un certain nombre de gens qui avaient une position vis-à-vis du judaïsme différente à cause de la Shoah. La responsabilité de l'enseignement catholique dans la Shoah a été très discutée, mais enfin, il y a un certain nombre de gens quand même qui ont senti qu'il y avait là quelque chose de profond et de ce qu'il fallait corriger. Mais même si donc la théologie officielle n'avait pas fait cette démarche, eux l'avaient fait personnellement. Et je pense que c'est essentiellement ça qui m'a incité, moi, à militer dans cette association dont le but était effectivement, le but ultime était une révision profonde de la théologie.
C'est vrai que vous parliez de la durée, comme ça, des croyances ou des préjugés. Même aujourd'hui encore, le déicide reste valable pour beaucoup de gens comme ça. Parce que ça les préoccupe pas plus que ça. Mais oui. Si on parle de l'histoire et si on écoute certains passages d'évangile dans les messes catholiques, une partie de la population entend ça avec une grille de lecture qui est celle d'un héritage comme ça de préjugés qui se transmettent pas d'une manière intellectuelle mais d'une manière naturelle par des propos simplistes, mais en tout cas ça reste quand même quelque chose de fragile.
C'est effectivement un mystère, comment est-ce que les... Mais enfin, historiquement on arrive à l'expliquer, mais comment est-ce que les gens, les fidèles de, en particulier les fidèles de l'Église catholique accepter, enfin, c'est pas le mot accepter, c'est effectivement, c'est pas une question de volontaire, c'est une question de...
Transmis sans questionnement, quoi.
Oui, ils se sont imprégnés de ça, parce que, effectivement, les évangiles ont cette... induit cette déformation que c'était pas les Romains mais c'était les Juifs qui étaient les responsables de la croix. Mmh. Or historiquement ça on sait que c'est faux.
Oui, puis il y a des choses qui sont incroyablement puissantes, bon, pour des raisons peut-être qui échappent à la raison. Je pense aussi à la croyance des sacrifices d'enfants pour la Pâque juive, où il y a encore des traces, alors plutôt dans l'Est de l'Europe, en Pologne, il y a encore aujourd'hui des traces de cette croyance qui avait un poids énorme il y a encore quelques siècles,
Et
qui jouait...
Il y a des tas de comment je pourrais dire, de convictions qui ont été construites sur cette présentation du juif perfide, aveugle et responsable d'un certain nombre de choses auxquelles effectivement on lui attribuait la responsabilité de choses réelles. Il y a certainement eu des cas historiques dans lesquels il y a eu des enfants qui ont été et ce problème de à qui on attribue cette responsabilité.
Il y a encore aujourd'hui dans le monde, dans certains endroits, des sacrifices d'enfants liés à des croyances animistes. Oui. Concernant la puissance, la reproduction.
Probablement, j'avoue, je n'en sais pas plus que ça. Mmh. Je veux dire, j'ai jamais travaillé cette. Mais oui, y a des affaires qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi elles sont faites et pourquoi les gens l'utilisent ça pour expliquer telle et telle.
Oui, puis justifier leur violence quand en fait ils ont envie d'être violents pour régler d'autres choses qui les concernent eux, mais qu'ils n'arrivent pas à régler ou qu'ils croient impossible à régler. Donc on est au début de cette histoire. On rappelle que depuis, il y a eu énormément de travaux et d'échanges qui ont été faits à la fois de groupes de cette association judéo-chrétienne de France, puis aussi des intellectuels, des chercheurs, des rabbins qui ont beaucoup travaillé ensemble. Du côté juif, je pense à M. Haddad, je pense à M. Abbé Cassis.
Pendant les demi-siècle que j'ai vécu, même plus dans cette association, oui, j'ai rencontré tous ces gens-là qui ont au sein, là, vous citiez un certain nombre d'intellectuels juifs qui ont travaillé là-dessus, mais il y avait aussi du côté catholique, par exemple. Il y a eu un certain nombre de gens qui ont fait le même travail, enfin, le travail parallèle, au sein même de la pensée chrétienne. Je pense très particulièrement en France, au Père Dupuis, qui a été l'un des grands intellectuel qui a aidé, il n'est pas le seul, mais qui a aidé à corriger cette théologie, disons classique, traditionnelle, mais qui n'est pas satisfaisante.
Jacques Madol, avec qui vous avez travaillé, faisait partie de ce...
Alors Jacques Madol, je ne sais pas très bien quel... Il connaissait Jules Isaac, par quel biais, je ne sais pas exactement. Et quand Jules Isaac a fondé l'Amitié judéo-chrétienne, donc l'association, il a demandé un certain nombre de personnalités qu'il connaissait ou qu'il a connues à ce moment-là de bien vouloir travailler avec lui. Il avait demandé... pour la fondation de l'association, à un catholique lyonnais, qui s'appelait Henri Maroux, de présider la nouvelle association. Et cet Henri Maroux, qui était un historien de l'Antiquité, s'est brouillé, je peux dire, avec Jules Isaac, lorsque Jules Isaac a publié son livre sur Jésus et Israël, parce que... Maroux n'a pas accepté la présentation que faisait Jules Isaac de l'origine de l'antisémitisme chrétien. Et pratiquement un an après la fondation de l'Amitié judéo-chrétienne, Maroux a été amené, parce que Jules Isaac a publié son livre en gros disons, 9 mois après la création de l'Amitié judéo-chrétienne. Donc c'est quand il a publié son livre que Marou s'est brouillé avec lui et a démissionné de son poste. Et à ce moment-là, Jacques Madaul, qui faisait partie du groupe, disons, de catholiques de gauche à cette époque-là, si ça, ça avait déjà un sens, peut-être pas, mais enfin... Jacques Madaul, donc, a accepté de prendre la présidence de l'association. Et il l'a gardée jusqu'en 1975. Ou 70, enfin, je sais.
On va revenir sur l'association Amitié judéo-chrétienne et la revue Sens, qui est liée dans une prochaine émission. Mais avant de conclure sur cette première rencontre, peut-être aujourd'hui, hein, nous sommes en 2026, nous l'évoquions tout à l'heure, l'antisémitisme s'exprime d'une manière extrêmement décomplexée et violente, dans notre pays en particulier, dans plein d'endroits, hein, mais de manière assez, assez massive. Et comment vous voyez-vous la suite de ce dialogue et l'importance de ce dialogue aujourd'hui eu égard à la situation complexe? Bon, on a le nez sur les événements, donc c'est difficile de prendre du recul, mais...
Oui, non, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que, je vais le dire comme ça, la moyenne d'âge des gens qui sont dans l'association s'élève. Mmh. C'est-à-dire que l'association touche très très peu les jeunes. Mmh. Or, il me semble que... les mouvements actuels, c'est plutôt des mouvements de jeunes qui sont à l'université, dans la rue, c'est des jeunes qui prennent position contre Israël et qui alimentent dans une certaine mesure l'antisémitisme présent. Mmh. Donc le rôle de l'association, malheureusement, est très faible. Mmh. L'avenir est...
Chers auditeurs, chères auditrices, donc nous venons de rencontrer le professeur Yves Chevalier, professeur honoraire de l'Université François Rabelais de Tours, qui est spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et des relations entre juifs et chrétiens. Nous le retrouverons pour une prochaine émission consacrée à une revue importante s'il en est, la revue Sens. À bientôt sur Shalom Bourgogne.